À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour, bonjour Laurent, bonjour à nos invités qu'on présentera dans un tout petit moment. Alors on va commencer comme d'habitude par l'actualité en Italie. Alors en Italie en ce moment on parle beaucoup du futur référendum qui va avoir lieu dans deux régions, la Lombardie et la Vénétie. Tout de suite, il faut préciser que ce référendum est consultatif et il porte sur le souhait ou non des habitants d'obtenir plus d'autonomie par rapport à leurs conditions actuelles auprès de l'État italien. Alors, quelques petits rappels de ces deux régions. La Lombardie, bon, c'est une région assez proche de chez nous. C'est plus de 10 millions d'habitants, ce qui est quand même assez conséquent. 12 provinces, et c'est une région qu'on peut dire relativement riche et qui a pour capitale ou chef-lieu Milan, et les villes les plus connues de Lombardie sont Côme, Bergame, Brescia, Varese, Crémone ou Mantoue, par exemple. Le président de région, c'est Roberto Marroni. Et pour la Vénétie est une population de 5 millions d'habitants. Il y a 7 provinces. Les villes principales, on les connaît, c'est Venise, Vicenza, Belluno, Padoue, donc Padova, Rovigo, Vérone. Et le président, c'est M. Luca Zaia. Alors, on parle d'acquérir un peu plus d'autonomie. Alors, il y a en Italie 5 régions qui sont réellement autonomes, qui sont à statut dit spécial. Alors, autonomie, ça ne veut pas dire d'être complètement détaché de l'État. Hein. Ça veut simplement dire qu'ils ont des ministères régaliens dont ils dépendent et d'autres ministères, notamment sur la fiscalité, où ils gardent, c'est un schéma rapide, mais ils gardent une partie de leurs encaissements et des recettes pour la région elle-même. Alors les régions autonomes sont la Vallée d'Oste, la Sardaigne, la Sicile, le Frioul, Friuli-Venezia Giulia, et le Trentin-Haut-Adige, qui est composé des deux provinces, Trentin et Haut-Adige. Ce sont des raisons historiques qui ont conduit à des autonomies, ou aussi les îles, avec des particularités en plus linguistiques, même si toutes les régions italiennes ont des particularités linguistiques. Alors, bien sûr, le premier rapprochement, vu l'actualité, on va se dire, ah, mais c'est comme en Catalogne. Non, c'est pas du tout comme en Catalogne, parce que ce qui se passe en ce moment en Catalogne, c'est réellement une demande, mais même d'indépendance. Et on entend toutes les informations là-dessus et tous les problèmes que ça commence à poser, parce que le gouvernement espagnol ne veut pas de ce référendum en Catalogne. Les Catalans le veulent absolument, et je crois qu'aujourd'hui, il y a encore eu un leader catalan qui a été arrêté, enfin bref. Et donc c'est pas du tout la même chose. Hein. Le référendum, là en Italie, il est consultatif, il est autorisé, hein, mais il est consultatif. Donc il n'y a pas de... Quel que soit, mais on en parlera après la décision, ça ne veut pas dire que ces régions deviendront autonomes, même pas comme les régions à statut spécial dont on parlait il y a un instant. Voilà, alors pourquoi ce référendum ? Alors, qui l'a souhaité déjà ? Bon, celui qui l'a le plus souhaité, c'est Luca Zaia, le président de la région Vénétie, puis qui a un peu été imité par Roberto Marroni, le président de Lombardie. Alors, ce sont deux vieux routiers de la politique. Hein, Marroni, il a même été ministre. Et puis, ils ont une particularité, que c'est tous deux appartiennent à la Ligue du Nord. C'est d'ailleurs les deux seules régions tenues par la Ligue du Nord, qui est en ce moment peut-être un petit peu en perte de vitesse, donc c'est aussi une façon de marquer leur territoire, on va dire, sans jeu de mots. Alors, le référendum va avoir lieu le 22 octobre. Alors, pourquoi le 22 octobre ? C'est tout simplement Zaia qui a choisi cette date-là, parce que il y a 151 ans, c'est la date à laquelle la Vénétie avait été rattachée au royaume, et ils ont toujours pensé que c'était ce rattachement avait été un peu forcé et truqué. Donc c'est une façon pour lui de marquer la date. Alors, qui peut voter déjà ? Alors, tout le monde peut participer, enfin tous les citoyens italiens qui résident sur place, hein, c'est-à-dire en Lombardie et en Vénétie, et qui sont inscrits sur les listes électorales. Le vote aura lieu sur une journée, hein, le dimanche, de 7h du matin jusqu'à 23h le soir, donc il y a du temps. Hein. Le choix sera facile, hein, c'est oui, non ou blanc. Voilà. Pour la Lombardie, ils pourront même voter sous forme de vote électronique. Et la différence entre les deux, c'est que pour la Lombardie, il n'y a pas besoin d'avoir un quorum de pourcentage par rapport aux votants pour que le vote soit validé, enfin validé en tant que consultatif. Hein. Alors que pour la Vénétie, il faut atteindre quand même une majorité par rapport au nombre de suffrages exprimés et de votants. Voilà, donc pour les modalités. Alors, sur les questions qui sont posées, parce qu'ils ne posent pas tout à fait les mêmes questions, mais encore une fois, Zai a l'air d'être celui qui inspire l'autre. Il a choisi une question simple. Est-ce que tu veux que la région de Vénétie ait d'autres formes et conditions, et des conditions particulières d'autres formes de fonctionnement et des conditions particulières d'autonomie, point final, il n'y a rien de spécialement autre. Marone y a pris quasi la même phrase, en y ajoutant que les ressources qui pourraient être à ce moment-là et en cas d'autonomie, dont pourraient bénéficier ces régions, donc il a un peu compliqué la question, mais bon, la philosophie est un petit peu la même. Alors, tout ça... En Lombardie, peut-être un peu moins, mais en Vénétie, il y a beaucoup de mouvements autour. Les mouvements pour le oui, et Zaia dépense un argent considérable pour affirmer sa propre position et traîner les gens. Alors non seulement pour voter oui pour lui, mais qu'ils aillent voter pour qu'il y ait quand même un maximum de gens qui aillent voter. Et puis, il y a aussi des résistances, là aussi, surtout en Vénétie. Alors, les résistances, c'est... ses adversaires parlent de farce, hein, souvent, disent que c'est aussi bien pour Maroni que pour Zai, que c'est une façon pour eux de masquer leurs insuffisances, voire plus, voire quelques, sinon magouilles ou quelque chose qui pourrait ressembler dans les deux régions. Et donc, petit à petit, il y a des vidéos, il y a des choses qui circulent sur Internet, les journaux s'en emparent, les points de résistance s'affirment. Et qu'est-ce qui peut arriver ? Alors, déjà, il y a un juriste, là, j'ai trouvé un article d'un avocat qui est juriste, disons, assez connu et qui est à peu près quelqu'un de sérieux, qui s'appelle Felice Pesostri. Alors, il fait remarquer que selon l'article 117 de la Constitution, une région, selon l'article de la Constitution italienne, de toute façon, peut déjà faire commerce avec qui elle veut, notamment un pays, même étranger, sans avoir un statut particulier. Donc, il ne voit pas tellement ce que peut amener l'autonomie à ce niveau-là, puisque c'est un peu ce qui est mis en avant, c'est le côté rapport aussi commerciaux et autres. Voilà. Alors, entre parenthèses, il y a aussi quelque chose un petit peu d'assez drôle, c'est qu'au même moment... où la Vénétie et la Lombardie demandent une autonomie, donc la Vénétie demande une autonomie, à l'intérieur de la Vénétie, la province de Belluno demande à être attachée au Trentin. Mais le même jour, je crois que c'est le vote, c'est même sûr. Et pourquoi ? Alors là, on peut se poser quand même d'autres questions. C'est vrai que la partie montagneuse de la Vénétie est moins riche que la plaine, mais elle est surtout moins riche et moins avantagée que la région du Trentin, qui est à deux pas. Je pense souvent à cet exemple du maire d'une commune, Ben Gozaldo, pour rien cacher, qui est à 3 kilomètres du Trentin. Son copain en face, qui est maire du village d'en face, a des conditions d'exploitation de la commune qui sont complètement différentes. Mais bon, à part ça, c'est vrai que ça ressemble quand même un petit peu quelque part à du folklore. Et, par contre, qu'est-ce qui peut se passer si le vôtre est oui, qu'est-ce qui va changer? Bah, pas grand-chose, en fait, parce que la consultation aura donné la possibilité pour les habitants, une demande d'autonomie, mais ça ne lie même pas la région actuelle et sa présidence, sa gestion aux prochaines élections, par exemple. C'est-à-dire que si tout ça ne se fait pas dans l'espace-temps pour lequel ils sont élus, les suivants n'auront pas à appliquer la décision. Donc ça ne vaut pas grand-chose, en fait. Et puis, encore une fois, ça ressemble surtout à une affirmation de ces deux, j'allais qualifier un mot malheureux, mais de Zaï et de Maroni pour marquer leur territoire et faire sans doute par les deux. Par contre, les résultats eux-mêmes, en Lombardie, on ne sait pas trop, ça n'a pas l'air d'enthousiasmer beaucoup de gens. En Vénétie, il est probable que le oui va avoir beaucoup de partisans. Après, on verra ce qui se passera. Mais probablement pas derrière d'autonomie. Probablement pas. On verra. Voilà. On va écouter un premier morceau. Alors, c'est un clin d'œil à nos invités, puisque c'est une chanteuse italienne qui est accompagnée par un violoniste roumain. Donc, la chanteuse, c'est Gera Bertolone, qui est sicilienne. Elle est accompagnée par Rares Morarescu, qui est un violoniste roumain. La chanson que j'ai choisie, Levatilustu Capodu, donc c'est du sicilien. Alors en quelques mots, la chanson dit enlève ce chapeau car tu es la fille du maître. Cirina, Cirina, tu ne vois pas qu'il t'en l'est dit. Enlève ce bonnet, tu ressembles à une servante. Cirina, Cirina, tu ne vois pas qu'il t'en l'est dit. Retire cette tuile, vite, pour sauver ton honneur, retire cette tuile, tu ne vois pas qu'elle t'en l'est dit. Donc, Gera Bertolone, tiré de l'album La Sicilienne.
Levatillo, su cappeggio, casi figlia di Mastriceggio, Cirinna e Cirinna. Non ti sta, levatilla, sta ricciata, che mi pare davvero una creata, Cirinna e Cirinna, non lo vedi che non ti sta, tiratillo su canali, sull'onore che non ci pari, tiratillo su canali, non lo vedi che non ti sta. Levatillo, stu cappeggio, casi figlia di Mastriceggio, Cirinna e Cirinna, non lo vedi che non ti sta. Levatilla, sta ricciata, che mi pare davvero una creata, Cirinna e Cirinna, non lo vedi che non ti sta. Levatillo, su cappeggio, casi figlia di Mastriceggio, Cirinna e Cirinna, non lo vedi che non ti sta. La 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 la
Voilà, alors vous êtes bien sur 97.1 sur Couleur FM. Alors, on va maintenant laisser la parole aux invités. Alors, tout d'abord, on va beaucoup parler de jumelage aujourd'hui, jumelage franco-italien et pas que. Et il faut savoir que dans le Nord-Isère, il y a un peu plus de 20 jumelages franco-italiens, puisqu'il y a Bourgoin et Conselice qui est en Émilie-Romagne, il y a Cessieux et Civitella-Rovetto qui est dans les Abruzzes, Charvieux et Nole qui est dans le Piémont, Corbolin et Campo Ligure qui est en Ligurie, Diemos-Castelnuovo-Belbo qui est dans le Piémont, Dolomieu et Agordo en Vénétie, Four et Pusiano en Lombardie, Erieux et Busnago en Lombardie, Jardin, si on considère que c'est dans le Nord-Isère, et Stanghella en Vénétie, La Verpillière vers Rolengo qui est en Piémont, Ponchirui, Livorno, Ferraris en Piémont, Saint-Just de Chalet-Saint et Incisa Scapaccino en Piémont, Saint-Marcel, Gozaldo, Vénétie, Saint-Quentin, Galcano del Lazio, Latium, Saint-Savin, San Savino, il envoie celui-là à Toscane, Salagnon et Reiana del Royale en Frioul, Valédien et Isano en Lombardie, Vienne et Udine, si on considère encore une fois Nord-Isère, Frioul, Villefontaine-Salzane en Vénétie, Saint-Jean-de-Soudain et San Giovanni del Dosso en Lombardie, Charentonnet-Tavagnasco dans le Piémont, et Merrier, dont on a deux représentants ici, et ils vont tout nous dire. Donc, Philippe Gaillet et Roger Goyet, ben, je vais leur laisser se présenter, leurs fonctions, et puis ils vont nous dire avec qui ils sont jumelés.
Bonjour, je suis donc Philippe Gaillet, je suis président du comité de jumelage de Merrier et de Bossico en Lombardie. J'ai été à l'initiative de ce jumelage il y a maintenant 35 ans, puis ensuite m'ont succédé de nombreux présidents et présidentes. Et depuis 5 ans, je suis revenu, j'ai repris le manche du bateau. Pour le laisser à nouveau dans 2 ou 3 ans à d'autres personnes. De Merrier, qui a toujours, dans une population qui s'est beaucoup renouvelée, a toujours trouvé des gens intéressés par nos relations avec nos amis de Bossico. Il faut savoir qu'en 1982, quand nous sommes allés pour la première fois à Bossico, nous étions 180 personnes de Merrier à y aller, et la population de l'époque, c'était 360. Donc, aujourd'hui, si on faisait le même score, on en emmènerait 500, plus de 500, puisque Merrier est aujourd'hui à plus de 1000 habitants. Malheureusement, on n'y va pas 500, mais la dernière fois, on était une bonne soixantaine encore à retourner à Bossico pour fêter ce 35e anniversaire.
Et comment est le choix de la commune de Bossico, comment il se fait? Parce qu'il y a des jumelages où on voit qu'il y a des raisons d'émigration, il y a des raisons quelquefois historiques, il y a des régions de métier où chacun fait un peu la même chose.
Alors, il est exactement à l'image de ce jumelage, la raison profonde. Ça s'est passé tout bêtement à l'occasion d'un repas bien arrosé. J'avais la chance à l'époque de travailler pour une entreprise italienne qui vendait des produits en France. Et à la suite d'un litige avec un client, qui s'est d'ailleurs fort bien terminé, le directeur commercial de l'entreprise était venu en France, mon ami Covilli. Et on a résolu le problème. Et le soir, tout bêtement, on s'est retrouvés tous les deux dans un très bon restaurant de Valence, dans la Drôme. On a mangé, bu et on a parlé. De l'Italie et de la France. Et comme le nouveau conseil municipal de Merrier, dont je faisais partie à l'époque, cherchait à trouver de nouvelles choses à faire, on a parlé de jumelage. Et Roberto est retourné en Italie, tout bêtement, et il m'a mis en contact avec un monsieur qui, malheureusement, d'ailleurs, est décédé il y a très peu de temps, il y a une dizaine de jours, qui s'appelait Gianfranco Asperti et qui, lui, s'occupait de jumelage dans la région de Bergamo. Et c'est lui qui a trouvé le village de Bossico, puisqu'il était ami avec le maire de l'époque, Pasquale Sterni, et nous avons fait un voyage préparatoire pour aller voir ce petit village qui nous ressemblait beaucoup, puisqu'il était à peu près le même nombre d'habitants que Merrier, même un peu plus à l'époque. Et ce petit village est perdu au milieu des montagnes. La route s'arrête après eux. On ne va pas plus loin. Les tournants sont compliqués pour y monter. Qui a demandé à quelques chauffeurs de la société Hannequin qui s'en souviennent. Et on est arrivé là-haut, tout bêtement, on a été reçu par la municipalité, fort courtoisement, et on a bu l'apéritif, et ils nous ont servi du San Pellegrino sans alcool. La petite délégation que je présidais à l'époque a été un peu refroidie. On nous dit que ça va être difficile de faire un jumelage avec des gens qui boivent du San Pellegrino à l'apéritif. C'était pas trop nos habitudes ici à Mériez. Mais par contre, après, nous sommes allés manger. Et après le banquet, ils ont sorti la boisson locale, la grappa. Et tout naturellement, après quelques bouteilles de grappa, nous avons décidé de signer, d'approuver ce jumelage. Et c'est donc comme ça que c'est parti. Et à l'initiative du conseil municipal de Mériez, dont le maire à l'époque était André Genin, et à l'initiative du conseil municipal de Bossico, dont le maire était Pasquale Sterni. Voilà comment ça s'est passé, tout bêtement. Et je vais laisser peut-être...
Une petite question, je ne crois pas me tromper, je crois que c'est au moins avec l'Italie, puisque les premiers jumelages c'était l'Allemagne en général, c'est sans doute un des plus vieux de la région, voire le plus vieux, non
Je pense que c'est un des plus vieux jumelages avec l'Italie. Peut-être les autres...
De la liste que je viens de donner, voilà. Pour le cas, c'est sûr. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont été créés,
Et il dure toujours. Et il dure toujours, et il est toujours bien vivant.
J'ai une autre question, justement, en parlant de durée. Roger Goyer va nous dire, et on développera tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a le jumelage avec Bossico, mais Mériez aussi un jumelage, on peut dire.
Oui, c'est pas tout à fait un jumelage. Enfin, bonjour, d'abord. Donc, on a adopté, comme on disait à l'époque, un village roumain. Donc, c'était dans les années 88-89. C'était avant.
Ah ben oui, 88,
Parce que justement, le dictateur en place, Ceausescu, voulait raser des villages pour mettre les gens dans des sortes d'HLM.
D'accord.
Donc, on a fait appel à l'opération Village Roumain. Et le conseil municipal de l'époque a bien voulu adopter un village. Et donc, on nous a attribué ce village de Slon, qui est à peu près à 80 km au nord de Bucarest, un peu à l'est de Brașov, et à 40 km à peu près des nouvelles usines de Dacia à Ploiești.
Ah, d'accord.
Voilà.
Et dans les deux cas, puisque notamment dans ces villages adoptés, on a vu que beaucoup, tout s'est terminé assez vite après. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges et de suivi. Et dans un jumelage, on va dire, plus classique, comme celui d'Italie, là, de Bossico, comment on fait vivre un jumelage? Parce que je sais que dans différentes communes, certains y arrivent, d'autres y arrivent moins, d'autres y arrivent un moment, après y arrivent plus. Et pour durer, comme celui de Bossico et de Mériez, parce que durer, c'est quand même, ça veut dire que ça marche. Comment vous l'avez bâti? Autour d'associations, autour des écoles, des échanges avec les... j'imagine que c'est pas uniquement, même si c'est agréable, aller faire la fête d'un côté et venir faire la fête de l'autre. C'est pas uniquement ça pour qu'un jumelage dure.
Alors, pour qu'un jumelage dure, il faut d'abord surtout qu'il y ait un comité de jumelage qui s'en occupe. C'est la première chose. L'autre partie, c'est que... Il y a aussi la volonté au niveau du comité de jumelage de Mériez de ne pas rester seulement dans ces échanges avec Bossico, mais que ça s'ouvre un peu à d'autres choses, et en particulier à la connaissance de la culture italienne, de l'histoire italienne, des villes italiennes. Par exemple, lors de notre dernier voyage que nous avons fait à Bossico, eh bien, on a consacré 2 jours avant d'arriver dans notre village jumeau. On a fait 2 jours pour aller visiter des villes italiennes. Alors, on a visité évidemment Bergamo, avec une guide italienne qui parlait très bien le français. On a aussi visité la ville du violon,
Cremona.
Et le soir même, on a même eu un concert par une artiste à Cremona sur un Stradivarius qui s'appelait d'ailleurs le Volcan, parce qu'il paraît qu'il fait beaucoup de bruit. Et les personnes, quand on va à Bossico, on essaye de toujours ouvrir à autre chose et de faire découvrir la culture italienne, les particularités culturelles, politiques de cette région du nord de l'Italie pour le moment, et on espère peut-être aller ailleurs. Et donc on le fait tout le temps en association avec les autres associations du village. Cette année, nous avons emmené une association qui s'appelle Bolder et qui s'occupe de courses d'orientation, qui a plein de champions de France à l'intérieur de son équipe. Et on a emmené 12 personnes de cette association Bolder qui ont organisé une course d'orientation à Bossico, à laquelle ont participé tous les élèves des écoles de Bossico. Voilà. On essaye de trouver des initiatives
qui permettent de
continuer les échanges en les positionnant sur des points qui intéressent 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Mmh. Et à ce moment-là, ces 10 personnes partent à Bossico, vont trouver quelque chose là-bas. On l'a fait l'an dernier où des gens sont partis, des gens qui font partie d'une association de Merrier qui s'occupe de Qigong, et qui sont partis là-bas pour rencontrer une dame de Bossico qui s'occupe de l'énergie des arbres.
Oui.
Et donc, ils ont passé un week-end ensemble dans la forêt pour parler de l'énergie, du passage de la nature, etc., etc. On cherche des points de rencontre possibles entre les Français et les Italiens. Mmh. Et voilà comment on le fait vivre. C'est pas simple, mais c'est l'adjonction de toutes ces petites rencontres
qui
permettent
de durer
et de développer et de créer des amitiés entre les Bossicesi et les gens de Merrier, qui fait que très régulièrement, des gens de Merrier y vont totalement individuellement, et on a aussi des gens de Bossico qui de temps en temps viennent à Merrier, bien qu'on soit nettement moins touristique que le village de Bossico.
Bon, on va continuer, on va écouter une petite chanson à nouveau, là. Donc toujours sur 97.1 de Couleur FM. Bon, quelqu'un, je l'ai un peu choisi volontairement, parce que c'est un peu nos générations, c'est Adriano Celentano, et on va l'entendre dans Il ragazzo di Via Gluck. Alors pourquoi Celentano? Parce que il est lombard lui aussi, puisqu'il est milanais. Et là, dans cette chanson, déjà la chanson va vous rappeler quelque chose, après vous me direz. Mais dans cette chanson, il parle donc en son nom d'un copain qui vivait en périphérie, qui revient en ville avec il redécouvre les commodités de la ville, mais aussi une sorte de victoire du ciment sur la nature, et du coup il retrouve pas ce qu'il aimait de ce coin-là, je schématise, mais le sens de la chanson c'est celui-là. On va l'écouter et puis après vous me direz si vous avez reconnu quelque chose.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi. Però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva. Solo case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. Quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, andiamo avanti così, chissà come si farà.
Alors, vous avez trouvé l'adaptation française ?
Ben, c'est ce que vous avez dit.
En aparté.
C'est avec Françoise Hardy.
Voilà, la maison où j'ai grandi. Voilà. Mais qui a donc adapté la chanson de Celentano. Alors, je parlais du sens de la chanson, mais on parlait de ce que vous créez à Mériez pour le jumelage avec Bossico, mais je crois que la langue est présente aussi dans, très récemment, notamment avec l'ouverture d'un... L'ouverture, enfin, d'un café italien, on peut dire l'ouverture, oui. C'est-à-dire une façon de, avec la pudinisme, mais de créer autour de la langue des discussions libres. C'est un peu le sens, hein.
Tout à fait. Depuis maintenant 3 mois, et à l'initiative de Odile Fagro, qui s'occupe de la médiathèque de Mériez, nous avons des rencontres d'une heure et demie. Enfin, j'en sors d'ailleurs. Nous avons des rencontres à 7, 8, 9, 10 personnes, ça dépend des fois, où tout bêtement, nous parlons l'italien, quel que soit le niveau d'italien qu'on a. Il y a des gens qui alignent 4 mots, et puis il y en a qui en alignent un peu plus, et c'est simplement, ce n'est pas un cours, c'est simplement une envie d'entendre, de parler cette langue, et de progresser dans cette aptitude que l'on a à prendre la parole dans une langue étrangère. C'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout quand on parle peu ou qu'on a peu de vocabulaire. On n'ose plus rien dire. Il faut apprendre à dire, à parler, même si on ne sait rien. Ouais. Je suis pas en train de donner un cours aux politiques, parce qu'eux, il y a longtemps qu'ils le font. Mais nous, en italien... Avec 10 mots, on peut commencer à parler. On peut commencer à se dire bonjour, à dire merci, à compter jusqu'à 20. Donc à Mériez, depuis maintenant quelques mois, ce café italien existe. Il a son petit jumeau à Bourgoin, qui a commencé avant avec Christiane. Et donc, si des gens sont intéressés, ils s'adressent à la médiathèque de Mériez. on n'a pas beaucoup, beaucoup de place. Alors attention, on n'a pas de licence 4. Hein. Et le café qu'on boit, il est bénévolement offert par la médiathèque. Voilà.
Non, mais l'idée de garder le nom café est intéressante. Parce que dans les cafés, il s'est passé des tas de choses, en fait, qui sont philosophiques, historiques.
Tout à fait. D'ailleurs, à la différence de Mérier, où nous n'avons plus qu'un seul café officiel avec une licence 4, alors qu'il y a 30 ans, il y en avait 5, à Boss-Hicol, les cafés sont toujours là et il y en a toujours 11.
D'accord. Oui, ça me permet de poser une question que je n'ai pas posée. Comment il est ce village au niveau, puisque tu disais, on se tutoie, bon, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Au niveau touristique, c'est un village qui est visité, il a structures.
C'est un village qui se situe au-dessus du lac d'Iseo. À 800 mètres au-dessus. C'est vraiment un panorama magnifique sur le lac d'Iseo, et l'île qui est au milieu est la plus grande île de lac européen. Et donc ce village était un village tout à fait paysan, il y a une centaine d'années, très paysan, où il n'y avait que des gens qui faisaient du foin, qui avaient des brebis, qui y avait beaucoup de bergers qui partaient dans la montagne. Et donc, des gens de Sovere, qui est une ville qui est un peu en dessous, et de Milan, qui n'est pas très loin, qui est à une centaine de kilomètres, hein, ou de Bergame, avaient choisi ce village comme un lieu de villégiature, et ils avaient créé des villas dans la montagne, sur les hauts plateaux. Et ces villas leur permettaient de venir passer les vacances, comme les grands bourgeois le faisaient à l'époque. Et d'ailleurs, ils invitaient dans ces villas des artistes. Et la plupart des villas sont peintes à l'intérieur, magnifiquement peintes, parce que les artistes, pour payer leur loyer, faisaient des peintures sur les murs, tout bêtement. Et donc, c'était un village de villégiature. Et cette tradition a duré très longtemps, tant est que beaucoup de personnes de Boss-Hicol avaient plusieurs maisons. C'était très difficile d'acheter une maison là-bas, même carrément impossible, ou un terrain. Des gens préféraient construire des maisons et ça leur permettait de les louer pendant un mois, deux mois ou trois mois à la société des chefs d'industrie de cette région-là, puisqu'il y a beaucoup d'industrie dans cette région-là. Par contre, ce type de tourisme a depuis quelques années un peu périclité. Puisque les gens qui partent un mois en vacances, ils partent ailleurs, et puis ils prennent plus un mois. Et donc, effectivement, l'activité touristique, qui est une activité de villégiature, a fortement baissé. Et ils sont en train de rechercher des nouveaux moyens de raviver cet état de tourisme, puisque le village est magnifique. Et surtout la forêt, la montagne, les hauts plateaux qui sont autour sont magnifiques. Donc c'est des endroits où peuvent se développer des nouveaux types de tourisme liés à la nature, liés à l'ambiente, comme ils disent, liés à la promenade, liés à la pratique du vélo, etc., etc. Donc tout change, mais il n'empêche que Boss-Hicol reste l'été un village qui passe de 900 habitants à environ 2000-2500 habitants. Donc ça justifie l'existence de nombreux cafés, de nombreux restaurants et au moins de 4 hôtels sur place. Donc il y a moyen d'aller y passer un bon moment sympathique. Et puis surtout, comme c'est un village un peu en dehors du monde, puisque la route pour y monter est difficile, eh bien il y a sur place un véritable commerce, mais là qui est un commerce pour les gens de Boss-Hicol. Donc il y a 3 épiceries, il y a un marchand de chaussures, alors que dans la plupart de nos villages en France, malheureusement, les gens vont au supermarché avec leur voiture. Ici, aller au supermarché avec sa voiture,
c'est trop loin.
C'est trop loin, c'est compliqué.
Mieux, à la limite. D'accord.
Voilà.
Boss-Hicol en Lombardie, il y a plusieurs, on l'a entendu tout à l'heure quand j'essayais de lister un peu les comités de jumelage de la région, il y a plusieurs villages d'ici qui sont jumelés avec des villages ou des petites villes lombardes. Et il me vient une question là, par rapport aux communes qu'on a citées. Est-ce que vous avez entre vous, pas spécialement ceux qui sont avec la Lombardie, mais en général, est-ce que vous avez des relations entre comités de jumelage? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les tuyaux? Est-ce que...
Tout à fait. Depuis maintenant 2 ans, on a créé... on n'a rien créé du tout. C'est même pas une association. C'est un club, on va dire. Une sorte de club à l'anglaise, hein, où différents comités de jumelage se réunissent pour monter des projets ensemble. Le dernier projet qu'on avait, c'était la visite du Parlement européen. Et on a donc travaillé pendant pratiquement un an et demi sur l'Europe et sur ce qu'était l'Europe pour faire connaître à nos concitoyens dans nos villages un petit peu plus les structures de l'Europe, parce qu'on dit beaucoup de mal de l'Europe, il s'en dit beaucoup, mais très peu de gens connaissent effectivement les structures et les compétences de l'Europe. Et souvent, on lui attribue des mots
qui n'existent pas. Bien sûr.
Et donc, on a terminé tout ce cycle sur l'Europe par un voyage au Parlement européen de Strasbourg, où nous avons été reçus par une de nos députées, Madame Grosstête, qui nous a très bien reçus. Et on a donc, à l'occasion aussi, bien évidemment, visité Strasbourg et sa région. Mais cet assemblage de comités de jumelage, aujourd'hui, on est 7 comités de jumelage. Il y a Salagnon, Saint-Savin, Mérier, Bourgoin, Saint-Quentin-Falavier.
Villefontaine
Non, il n'y a pas Villefontaine. Qui c'est que j'oublie? Saint-Chef. Enfin, j'en oublie, je m'excuse auprès d'eux. Et quelque chose qui marche bien. Et en particulier, je peux vous dire par exemple que la semaine dernière, nous avons organisé à Mérier une soirée théâtrale sur le cinéma italien.
On parlera, oui.
Et nous avons eu à cette occasion-là beaucoup d'amis des comités de jumelage des petits villages ou des grandes villes d'à côté de nous qui sont venus, et on se soutient les uns les autres pour continuer ce chemin de l'Europe des peuples. C'est notre volonté, c'est de faire comprendre qu'en dehors de tous les problèmes administratifs, politiques et tout, il y a toujours, aussi bien en Italie qu'en France, qu'en Allemagne, une envie des gens à ce que les peuples se réunissent et continuent à faire l'amitié.
Et justement, ça pose la question des comités de jumelage de maintenant par rapport à il y a 30-40 ans. Je crois que quand on en discute avec des gens qui s'occupent de comités de jumelage, c'est souvent le leitmotiv qui revient. Et en disant tout à l'heure ce que vous avez à l'intérieur de Mérier comme proposition dans différentes milieux de société, élargir à d'autres villes, etc., etc. Je crois que le comité de jumelage de maintenant, il ne peut plus ressembler à ce qu'il était, enfin vous le savez mieux que moi, hein, mais à ce qu'il était il y a 40 ans. Je crois qu'il faut inventer autre chose et avoir des relations élargies, voire avec les comités de jumelage ici peut-être pour fédérer aussi les choses organisées, pour... Enfin, il me semble, hein, c'est que...
Il y a 40 ans, pour beaucoup d'habitants de Mérier, le voyage en Italie a été le voyage de leur vie.
Oui, voilà. Ouais.
Deux voyages qui ont été importants, c'était Bossico et Marseille. Parce que grâce à ces deux associations de Mérier, il y a des gens qui ont vu pour la première fois la mer, à Marseille, et qui ont vu un pays étranger pour la première fois de leur vie.
Voilà.
Donc effectivement, c'était quelque chose de magnifique et qui était à la portée de leurs moyens financiers. Aujourd'hui, faire un voyage en car, alors qu'il est si facile de prendre l'avion pour partir en Thaïlande ou au Chili, faire un voyage en car de 5 heures, c'est pas toujours évident. S'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas une volonté de connaissance, d'apprentissage, et je dirais d'amour pour un autre pays, ça marche plus. Ça marche
c'est sûr,
plus.
C'est sûr. Bien, alors avec Roger Goyet, on va parler du côté roumain, puis après on reviendra à vos festivités après une chanson. Mais là, donc sur la Roumanie, alors l'historique, on l'a eu un tout petit peu
tout
à l'heure.
Un petit peu, oui.
C'est-à-dire
d'abord
l'adoption.
L'adoption. Ensuite, il y a eu la révolution roumaine, et donc là, on a réussi quand même à rentrer en relation avec eux. Et donc, on a fait un peu d'aide humanitaire, mais ce n'était pas du tout notre but. Notre but, c'était de sauver ce village, la première chose. Et donc après, on est allé plusieurs fois auprès d'eux, et on voulait dépasser un peu le stade humanitaire. On a essayé de faire à notre mesure qu'ils aient l'eau sur le robinet, ce qu'ils n'avaient pas. Ils n'ont que des fontaines. Dans le meilleur des cas, un petit réseau d'eau potable, mais qui marche plus ou moins bien. Donc, pour faire ça, dans notre coin, c'était assez difficile. Donc, on a travaillé un peu comme disait Philippe, là, on s'est fédéré. Donc, au niveau de la région Rhône-Alpes, on a regroupé des villages qui avaient le même objectif, avoir de l'eau potable dans les familles. Et donc, on a travaillé, je ne me rappelle plus, mais à peu près 6-7 ans là-dessus. Et finalement, ben notre village a eu une subvention pour pouvoir établir son réseau d'eau. Et bon, à ce moment-là, ils nous ont dit que ben, c'était bien. On leur a demandé si on pouvait faire quelque chose pour eux encore. Et ils ont dit ben non. Je pensais quand même qu'on avait travaillé un peu avec... On faisait un peu de l'ingérence dans la vie communale. Mmh. Donc on s'est un peu retiré. Et puis on a mis le bouquet final en 1996, où on a déplacé un quart avec une association de mairies qui faisait de la course à pied. Et à ce moment-là, on a fait un relais de course à pied entre le village qui était adopté par Villefontaine, Urménich, au village de Slon, chez Razou, qui était donc adopté par mairie. Donc, ça faisait à peu près 300 km. Et tous les soirs, dans les lieux où on s'arrêtait, on faisait une soirée échange démocratique et Europe. Donc, dans la salle du village, on échangeait sur qu'est-ce que c'était que la démocratie, qu'est-ce que c'était l'Europe pour chacun. Voilà un peu comme on a fait. Donc depuis, les relations ont été un peu distendues. Moi, j'ai encore des relations privées avec des gens que j'ai connus à ce moment-là. On parlait tout à l'heure ensemble d'Elena. C'est quelqu'un qui parle très bien le français et puis qui est venu en France. Donc on peut toujours échanger. Et en 2016, le maire... le président du comité du jumelage de Mérier, sont allés à une festivité qui avait lieu à Slon. Ils appelaient ça, la fête européenne, c'était ça. Hein. Donc ils ont été très contents. Le maire, qui était déjà allé au début de... juste après la Révolution, a trouvé qu'il y avait beaucoup d'évolution. Et donc maintenant, ils vont venir chez nous et on va les recevoir, on va leur faire... visiter un peu les installations de Mérier, de la Capie, et puis peut-être Lyon, je ne sais pas. Enfin.
Et comment vous expliquez que cette adoption, entre guillemets, des villages roumains... Parrainage, pardon, ouais. c'est un mot malheureux. Ouais. Dans beaucoup d'endroits, a capoté. Est-ce qu'on n'a pas compris, peut-être, nous, ce qu'attendait... en face les villages roumains, est-ce que au contraire l'incompréhension venait des villages eux-mêmes?
Il y a un peu des deux, et soit nous on n'était pas à l'écoute et eux ils attendaient rien du tout. Ah. Hein, je pense que bon, ils étaient sous une chape et de voir des villages qui arrivaient étrangers qui venaient chez eux, ça les a surpris un petit peu. Et puis après, il faut jumeler. Alors donc, on a les distances qui font qu'on est quand même, on est à 2300 km. Ça se fait pas comme ça. Je pense que c'est un tout. Voilà à peu près ce qu'on peut en dire, quoi.
Quelle grosseur il a, ce village?
Alors le village a à peu près 1000 habitants aussi, ils sont
plus dispersés peut-être.
Ils sont une fédération de villages, quoi. La commune, elle s'appelle Cherazou, et autour de Cherazou gravitent 5-6 villages, quoi, dont Slon. Voilà. Et c'est un très beau village, hein. C'est un village typiquement roumain. On a encore des maisons en bois. Enfin, c'est très typique.
Non, je pense que la Roumanie, en général, a vécu quelque chose de fantastique en 25 ans. Puisqu'elle est passée d'un état dictatorial où les gens étaient, des gens des villages étaient dans une pauvreté de moyens absolument indescriptibles, et sont passés en 25 ans à quelque chose d'être un pays membre de la communauté européenne. Et donc, dans un premier temps, les gens qui sont arrivés en Roumanie sont surtout arrivés pour aider, pour amener du matériel informatique, des vêtements, des médicaments, des choses comme ça.
De l'action humanitaire.
Ce qui paraissait logique. Et donc, les Roumains qui n'étaient pas au courant qu'on les parrainait,
c'est
pas à leur demande que ça a été fait. Ils l'ont appris après qu'on les avait parrainés. Donc, c'est pas à leur demande que ça s'était fait. Ont vu débarquer des gens sans leur avoir demandé de venir, en fin de compte.
Exactement.
Et en plus de ça, des gens qui leur apportaient des choses. Et donc, ils ont, à mon avis, au départ, pensé que l'un de nos rôles, c'était d'apporter des dons. Mmh. Hein, et parce qu'ils avaient besoin d'énormément de choses. Et puis, petit à petit, cette société a évolué difficilement. Car on ne sort pas comme ça
d'une habitude en plus.
D'une habitude.
À la fois on le subit, mais à la fois il y a des habitudes.
Mais ça, c'était resté très ancré chez eux. Mmh. Et effectivement, le fait de rentrer dans la communauté européenne a déjà fait évoluer les choses, leur a permis une avancée fantastique au niveau des structures, des routes, de l'eau,
des télécoms.
Des télécoms et tout. Et petit à petit, ils ont repris confiance en eux. À leur capacité de faire quelque chose eux-mêmes, avec l'aide effectivement de la communauté européenne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont souvenus qu'au tout début, au départ, eh bien, il y avait des gens
qui s'étaient
occupés d'eux. Mmh. Et nous, on a eu la chance d'avoir une équipe municipale à Slonci-Razu qui, c'est de leur propre initiative, c'est eux qui nous ont rappelés, c'est pas nous qui les avons sollicités, qui nous ont rappelés pour nous dire, écoutez, on a fait des choses ensemble il y a 25 ans. Pendant quelques années, on a fait des choses ensemble. Le temps a passé. On n'a peut-être pas pu continuer les relations normalement parce qu'on avait d'autres choses à faire qui étaient plus importantes.
J'imagine.
Nous structurer politiquement, administrativement, au niveau des écoles, des hôpitaux, etc. Et donc, maintenant, ça y est, on est prêt. On est prêt à recommencer parce qu'on est au même niveau que vous.
Hein,
c'est eux qui nous ont rappelé et on a tout de suite répondu oui parce que mais ils n'auraient pas rappelé.
Oui, bien sûr. Oui. Voilà, oui, donc c'est une bonne explication. Puis je crois qu'encore une fois, on voit que tout dépend des individus en fait.
Tout à fait.
Ouais. Ouais, on va parler après puisque vous allez les accueillir avec vos amis de Bossico. On va écouter une petite chanson là. Hein. On va écouter une chanson d'un chanteur lombard. Toujours, puisque Bossico est en Lombardie. Alors, vous allez me dire, mais il a un drôle de nom pour un Italien. Il s'appelle Davide Van de Sfros. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Mais il est bien italien, parce qu'en fait, son nom, c'est Bernasconi. Mais il a pris ce nom parce que Van de Sfros, c'est du dialecte de Côme. Et ça veut dire... Ils vont en contrebande. Donc déjà, la philosophie du groupe est marrante. Quoi. Et voilà pourquoi il s'appelle Van de Sfros. Il n'est pas du tout d'une origine néerlandaise ou autre. Il s'appelle donc Davide Bernasconi. Et on va l'écouter dans une chanson qui est sortie qui est tirée d'un album qui avait remporté en 2002 le prix de la chanson dialectale au Festival Tenco, chanson d'auteur en Italie. Donc, Me canzone d'amor de Davide Van de Sfros.
Scusa che peli una scigola, egoiaci come impara a descere. I miei amici dicen rock e san de grappa, i leoni fa de carta e de vernice. La san che son piavon de giuga scupa. Quante vedi giù al consorzio al camp di Bush, e a questa edera che la rampega, dai me scarponi al me capel, che foi carezzi in tanche me sul fega, da giardinier sul diventan restel. E al tramunco anche sul betega preparire scariasi in maiadat. Consenti men che l'enna motto sega. Encore
mostrami che sol ta comença. Una canzone d'amore scrivi me e con la vanga scondi pas di me pensé. El merlo e il ritmo ormai chi se ne frega. L'erba alla cresce per vedere cos'è che fu. E Tomorusel gira il mondo in barca a vela. E messo mai na fa de sto giardin. E sunt un fiu che anziché verde se se sarà. E di me res, mi arrestare du mai spen. E a questa edera che la rampega, dai me scarponi al me capel. Che foi carezza in tanche me suffega, da giardinier son diventare stel. E oltre buco anche il sul betega, prepari il rischio si mai adat. Con sentimento che l'è moto sega, e un cor stremì che solta come un shot.
Bien, alors on a écouté David et Van Destroff en antenne. À juste titre, Philippe disait que les amis de Four comprennent peut-être, puisqu'ils sont jumelés à un village qui est au bord du lac de Côme. Mmh. Voilà. Ben moi, maintenant, vous allez nous parler un peu de ce que vous allez organiser, festivités. Puis si vous avez quelque chose à rajouter sur la Roumanie, notamment sur les relations que vous avez avec des personnes en Roumanie. Ouais, je crois que vous aviez fait une action qui est
quand même... on a fait une action particulière. Là, lors du premier voyage, là, donc, notre mère, on lui a présenté un enfant qui était de 5 ans, qui était leucémique. Et bon, il a œuvré auprès du ministère de la Santé pour le faire soigner en France. Donc cet enfant est venu à l'hôpital de Brousse. Et il est venu, il est resté de mai 90 à janvier 91. Donc pour essayer de guérir de la leucémie, il a eu 2 autogreffes et malheureusement il est décédé. Et là, il était accompagné avec sa mère. Donc le village l'a pris en charge, cette dame, et on l'a accompagnée pendant toute la durée du séjour de son enfant à l'hôpital. Et donc on a toujours gardé des relations.
Vous êtes toujours en contact.
On a toujours en contact. Ouais. Et plus...
Elle sera là.
Elle sera là, oui. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on a été obligé, on a créé une association à ce moment-là et on s'est nommé les Amis de Bogdan. Donc c'était le nom de cet enfant.
Mmh,
voilà,
d'accord.
On a pris le nom de cet enfant. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire.
Et donc nos amis roumains vont donc venir au mois d'octobre pour participer au 35e anniversaire de notre jumelage avec l'Italie. Ça correspond à quelque chose près au 30e anniversaire du parrainage que l'on avait fait de Slantia Razo. Et justement, la petite délégation qui vient de Roumanie, composée de 10 personnes, parmi cette délégation, il y aura la mère de Bogdan, qui a toujours gardé de très fortes relations avec le village de Merrier, et qui en plus parle très bien le français. Mmh. Voilà. Donc nos amis roumains vont être là pendant 5 ou 6 jours. On leur a organisé
des visites
à la fois du village de Merrier, de notre région, car ils sont très intéressés sur comment nous marchons administrativement en France.
L'organisation
administrative de la France. Donc on leur montrera un petit peu comment chez nous on est organisé entre la commune, les communautés de communes, les régions, les départements, etc. Ils participeront bien évidemment le 14 et le 15 octobre à la venue de nos amis italiens. Et donc le samedi, nous organiserons un certain nombre d'activités en particulier autour de la gastronomie. Hein, nos amis italiens vont apporter de la charcuterie italienne, bien évidemment, du fromage de Bossico, qui est un fromage très intéressant et fort peu connu, mais qui est très bon.
C'est comme, fromage... comme Bagolino, le petit village de Lombardie où il y a un carnaval, le plus, on dit le plus vieux carnaval de, d'Europe, et qui a un fromage qui s'appelle le Bagos, qui est fantastique et qui est très peu connu. En
voilà. Fait, et nous aurons donc un stand autour de la gastronomie, de la polenta, de, du chou farci. Et puis du gratin dauphinois, bien évidemment. Le soir, nous aurons une grande soirée organisée à la salle Prévert, auquel participera un orchestre du conservatoire de Bourgoin-Jallieu, enfin de Berlioz, Hector Berlioz, donc de et un orchestre qui jouera des musiques des Balkans, donc pour rappeler un peu l'esprit de l'Orient de l'Europe. Hein, sous la férule de Laurence Dupré. Et l'après-midi, nous aurons un chœur qui vient de Lyon et qui chante des chansons italiennes du 16e, 17e et 18e siècle. Ce sont 25 personnes qui vont donc venir dans, dans l'église de Mériers pour présenter 25 minutes de spectacle, deux fois 25 minutes de spectacle. Hein. Et le lendemain, nous aurons une course d'orientation. Bien évidemment avec les jeunes de l'école de Mériers et les anciens de Bossico, comme on avait fait à Bossico dans le sens contraire, et nous aurons à 10h30 une messe, comment ne pas faire de messe quand les Italiens viennent, qui sera donc célébrée par les trois curés de Bossico, parce qu'avant il n'y en avait qu'un, après il n'y en a plus eu, puis maintenant il y en a trois, hein. Il y en a qu'un qui est sur place. Mais les curés de Bossico sont tous des gens qui sont à connaître, même si on n'est pas catholique. Je peux vous dire qu'ils ont une façon d'appréhender la vie et d'appréhender les gens avec qui ils parlent, où la religion existe, mais la bonne bouffe, la grappa et tout le reste existent aussi beaucoup. Hein. Et ensuite, eh bien, nous aurons le repas autour du porcelet grillé et du gratin dauphinois pour terminer le dimanche après-midi dans la joie et la bonne humeur.
Très bien.
À cette occasion-là, nous aurons aussi l'occasion d'inaugurer le nouveau quartier de Mériers, qui s'appelle le quartier des Noyers. On peut y aller même sans bouée. Hein. Et en particulier, au milieu de ce quartier des Noyers, le nouveau pôle médical de Mériers, où là, il y a plein de gens qui font de la médecine, qui sont réunis. Et il y aura donc, offert par la municipalité, un apéritif le soir à l'occasion de cette inauguration.
Voilà. Très bien. Et tout ça a commencé par la soirée théâtre-cinéma d'il y a quelques jours, voilà. qui était, ma foi, très intéressante, avec plusieurs tableaux rappelant les films italiens, avec cette compagnie de jeune âge, où étaient présents effectivement pas mal de comités de jumelage de la région. Voilà, ben merci Philippe, merci Roger.
Ben merci à vous.
Et puis bon, on est amené à se revoir sans doute. Enfin, on donnera peut-être quelques échos de ces festivités.
Tout à fait.
Voilà, et merci Laurent.
Merci.
Merci. Arrivederci.
À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animé par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.